Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
Donc mon invité, c'est le professeur Adnan Raymal, qui a été récompensé dernièrement du Innovation Prize for Africa 2015. Félicitations, monsieur le professeur.
Merci pour vos félicitations et merci d'avoir fait le voyage de l'Australie jusqu'au Maroc pour qu'on se rencontre.
On s'est raté de quelques jours quand vous êtes venu à Sydney parler d'une innovation qui vous a valu ce prix, mais une innovation de taille, une innovation qui permet de combattre un phénomène que l'on connaît et qui semble irréductible, un phénomène d'infection par des super bactéries, un système qui touche une chaîne alimentaire qui comprend les animaux, le végétal et qui se répand même chez l'humain. Parlez-nous de cette innovation particulière dont vous êtes l'auteur.
Quand j'étais jeune chercheur en 1988, j'avais 25 ans, je venais d'avoir mon doctorat de pharmacologie en France, à l'Université de Paris, et je suis rentré au Maroc pour commencer une nouvelle carrière de chercheur à l'Université de Fès au Maroc. À ce moment-là, il fallait que je trouve un sujet de recherche sur lequel je vais travailler et qui représente un besoin pour le Maroc. J'ai discuté avec les médecins marocains qui m'ont dit, en 1988, ça fait 27 ans, ils m'ont dit, si vous voulez faire de la recherche utile pour le Maroc, la meilleure chose, c'est de travailler sur la résistance aux antibiotiques. Parce que déjà en 1988, c'était des médecins qui me disaient, on arrive à faire des prouesses sur le plan chirurgical, sur la neurochirurgie, sur la chirurgie cardiovasculaire. Malheureusement, on réussit notre opération chirurgicale de pointe, mais après, nous perdons le malade à cause d'infections par des bactéries multirésistantes qu'on appelle des infections nosocomiales. Ces médecins m'ont donné une mission, c'est de travailler pour essayer de combattre le phénomène de la résistance. C'est à partir de 88, donc ça fait 27 ans, que j'ai commencé à collaborer avec des collègues au Maroc et à l'étranger, à collaborer avec des médecins, avec des industries pharmaceutiques, avec des vétérinaires, pour comprendre quel est le problème et comment on peut le résoudre. Donc j'ai en quelque sorte décidé de dédier ma carrière, ma vie professionnelle à combattre ce phénomène. Donc après une dizaine d'années, entre 88 et 98, où j'ai travaillé sur l'aspect fondamental de qu'est-ce que c'est que les antibiotiques, comment ils agissent, qu'est-ce que c'est que la résistance, comment elle se développe, pourquoi elle se développe, et puis à chercher d'autres substances alternatives qui puissent remplacer les antibiotiques. Et la même chose, donc sur ces substances alternatives, on a dû faire beaucoup de travaux fondamentaux, d'ordre fondamental, c'est-à-dire quel est le principe actif, quel est le mécanisme d'action, comment on peut le moduler, le réguler, etc. Alors à partir de 98, on a commencé à réfléchir aux applications, puisqu'il y a trois sources de résistance, si on veut. La première source de résistance, c'est que les humains, dans certains pays, dans la majorité des pays, vont faire un usage abusif des antibiotiques, c'est-à-dire vont utiliser les antibiotiques même quand ils n'en ont pas besoin, premièrement. Et deuxièmement, quand ils en ont besoin et qu'ils les utilisent, ils les utilisent mal, c'est-à-dire au lieu de traiter, par exemple, pendant 10 jours jusqu'à éradiquer l'infection, on traite quelques jours et quand on s'en sent un peu mieux, on arrête le traitement. Et ce sont ces deux choses-là qui font que la résistance se développe chez les humains. Donc pour combattre le phénomène de la résistance chez des hommes qui sont déjà malades, ce qu'on a fait, on a été amené par la logique scientifique, si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans les détails, à chercher une synergie entre les antibiotiques qui sont là depuis 50 ans et des molécules alternatives que nous avons trouvées. Et quand on a fait cette synergie, ça nous a permis d'obtenir un effet multiplié par un facteur important des antibiotiques anciens sur des germes qui sont sensibles et en même temps à casser la résistance des germes résistants. Donc, vous avez une bactérie qui est devenue résistante à l'amoxicilline, qui est l'un des antibiotiques qui ont fait le plus de bien à l'humanité. Eh bien, cette bactérie qui est devenue résistante à l'amoxicilline seule, quand nous, on met l'amoxicilline et on rajoute nos molécules qu'on appelle des boosters, eh bien, cette bactérie résistante redevient sensible. Et elle redevient donc sensible définitivement parce que le mécanisme d'action de cette association antibiotique plus booster est tel que les mutations génétiques qui provoquent la résistance ne sont pas capables de combattre ce mécanisme d'action. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans la médecine humaine. On a développé ce qu'on appelle des antibiotiques boostés pour lesquels aujourd'hui nous avons fait des essais cliniques au Maroc avec l'aval du ministère de la Santé publique, avec le comité d'éthique et avec des grands professeurs d'infectiologie qui sont vraiment très très satisfaits et très contents des résultats qu'on a obtenus dans ces essais cliniques. Donc ça, c'est la partie médecine humaine. Malheureusement, ce n'est pas la seule source de la résistance. L'autre source de la résistance aux antibiotiques chez l'humain, elle vient des élevages de volailles, des élevages de bovins, des ovins, à qui on donne des antibiotiques aussi, de la même famille que les antibiotiques qu'on donne chez les humains. Et le pire, c'est qu'on leur donne pas quand ils sont malades, on leur donne sans qu'ils ne soient malades, juste pour stimuler leur croissance. Au lieu de les appeler antibiotiques, ils les appellent promoteurs de croissance. Et là, c'est problématique parce qu'à ce moment-là, on tue chez ces animaux les microbes qui sont sensibles et on garde chez eux seulement les microbes résistants qui vont coloniser l'organisme de l'animal. Et inévitablement, ces bactéries résistantes vont passer chez l'homme par la chaîne alimentaire, par le lait, par la viande, par les œufs. Et ils vont rencontrer les bactéries qui vivent dans l'organisme humain, qu'on appelle la flore bactérienne humaine, et ils vont transférer leurs gènes de résistance aux bactéries qui vivent chez l'homme. Et ainsi, lorsque on a une petite infection urinaire ou lorsqu'on fait une petite opération chirurgicale ou une femme qui accouche, eh bien, ces bactéries peuvent provoquer des infections graves pour lesquels aucun antibiotique ne marche. C'est ça le danger de donner des antibiotiques aux animaux. Le problème, c'est que les éleveurs, ça fait 50 ans qu'ils utilisent ces antibiotiques comme promoteurs de croissance et ils ne sont pas prêts à les abandonner, sauf si on leur donne une alternative qui soit plus efficace, au même prix ou même moins cher.
Et vous avez trouvé cette alternative?
Voilà, c'est ce qu'on a fait. Ça fait depuis 94 que j'ai commencé à travailler avec des vétérinaires, avec des éleveurs, avec des fabricants d'aliments de bétail. Et on a réussi en 2011 à déposer un brevet sur une formulation qui contient 4-5 principes actifs différents, qui sont tous naturels et qui, ensemble, agissant en synergie, quand on les met dans l'aliment de bétail, ils remplacent à la fois les antibiotiques et les antiparasitaires qu'on met dans l'aliment de bétail. Ils remplacent même, ils fixent même les mycotoxines, qui est un autre fléau dans l'alimentation de bétail. Ce produit, aujourd'hui, il est vendu au Maroc depuis 2011. Les gens l'apprécient, les éleveurs l'apprécient, et ils ont décidé carrément d'abandonner les antibiotiques, les antiparasitaires, et utiliser notre produit parce que il est moins cher. Il leur donne une très, très bonne satisfaction. Et en plus, ça leur permet de communiquer et de dire aux clients marocains, vous pouvez manger la viande, vous pouvez manger les œufs, vous pouvez manger le lait, parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques dans ce qu'on vous propose.
Et donc, ce produit, comment est-ce qu'il est répandu au niveau du Maroc? 80% de pénétration du marché, 30%. Quel est le taux de pénétration du marché marocain?
La pénétration, si vous voulez, pour moi, la pénétration, c'était comment faire que tous les éleveurs, les grands éleveurs, et que tous les grands fabricants d'aliments testent mon produit. Et ça, je peux vous dire que 100% des acteurs de la profession l'ont testé et 100% l'ont apprécié. Maintenant, tous ces acteurs qui l'ont testé et apprécié l'utilisent. Seulement, il y en a qui l'ont généralisé, c'est-à-dire qui l'utilisent à 100% dans leurs élevages, et d'autres qui l'utilisent à 50, à 20, à 10 pour pour la simple raison qu'il y a des enjeux économiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez, les grandes boîtes qui vendent les antibiotiques, les antiparasitaires, ils sont capables de faire des facilités de paiement aux éleveurs. Et donc, un éleveur qui doit 100 000 dollars ou 200 000 dollars ou même parfois 1 million de dollars à son vendeur d'antibiotiques, il ne peut pas lui dire « j'arrête d'utiliser votre antibiotique pour utiliser l'autre ». Parce qu'à ce moment-là, il va lui dire « alors tu me payes ce que tu me dois ». Et donc ça fait qu'il doit retirer de sa trésorerie 200 000, 300 000 dollars. Donc je dirais que tous les éleveurs qui ne sont pas soumis à la pression des sociétés qui vendent des antibiotiques, ils ont généralisé à 100%. Les autres, ils continuent à travailler un petit peu avec les vendeurs d'antibiotiques et un petit peu avec moi. Mais bientôt, ces antibiotiques vont être interdits. Pour le moment, il n'y a pas d'autre alternative que la nôtre.
Au niveau mondial, parce qu'il semble que c'est un produit quand même très sain, un produit qui manquait non pas seulement au monde animal, mais à l'humanité, un produit sauveur. Est-ce qu'il est disponible ailleurs, mis à part au Maroc?
Alors, c'est un produit qui est nouveau. La société est jeune. C'est presque une start-up, je dirais. C'est une PME très jeune dans laquelle j'ai commencé avec quelques business angels. On n'avait pas beaucoup d'argent pour aller tout de suite vers l'international. En même temps, il fallait travailler quelques années seulement au Maroc pour la preuve de concept, pour être sûr au bout de 2-3 ans, comme ça s'il y a quelque chose, un défaut, on peut le voir. Effectivement, pendant ces 2-3 ans, on a été très attentif à l'avis de nos clients, et à chaque fois qu'on a eu une remarque, on a apporté quelques modifications, quelques améliorations. Donc c'était bien d'attendre. Alors maintenant, le Maroc, malheureusement, au Maroc, on n'a pas beaucoup de fonds d'investissement comme ce qui existe dans le reste du monde. Et donc, les banques non plus sont pas, ils comprennent pas ce que c'est que l'innovation. Les banques, ils veulent avoir du foncier en contrepartie d'un crédit, etc. Donc, après l'obtention du prix africain d'innovation, j'ai eu des contacts importants avec des investisseurs marocains et aussi des investisseurs internationaux d'Afrique, d'Europe, d'Australie et d'ailleurs, qui m'ont proposé de venir et de faire une collaboration gagnant-gagnant pour justement que notre produit arrive dans leur pays. Il y a deux cas de figure. Il y a des cas qu'on est en train d'étudier avec certains pays qui sont très loin où il faut fabriquer de grandes quantités. On va agir probablement par leur donner une licence de fabrication, les encadrer dans la fabrication, mais ça sera fabriqué dans ces pays. Par exemple, en Australie, on va pas envoyer le produit du Maroc jusqu'en Australie. Mais on peut s'associer avec des investisseurs australiens et fabriquer le produit en Australie sous licence. Pour certains pays qui sont pas loin du Maroc, comme l'Afrique subsaharienne, l'Afrique la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., ou l'Algérie, la Tunisie, ou l'Espagne, on peut fabriquer au Maroc et l'envoyer là-bas. Mais donc, pour le moment, nous sommes dans cette phase. On est en train de structurer notre société, d'augmenter le capital avec l'arrivée d'investisseurs, de fonds d'investissement marocains et étrangers. En 2016, nous allons commencer à aller vers les autorités sanitaires de ces pays pour obtenir l'homologation du produit, qui normalement ne devrait pas poser de problème parce que on a dans nos ingrédients que des substances naturelles qui ne sont pas étrangères à la pharmacopée ou au monde de l'élevage. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour obtenir les homologations nécessaires. Et à ce moment-là, le produit va être disponible dans toutes les régions du monde, et sachant que nous avons déposé un brevet d'invention dans toutes les régions du monde où il y a beaucoup d'élevage.